Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Bonjour, bienvenue, mesdames, messieurs, à cette 16e présentation de notre ésotérisme expérimental ici sur la radio CJLV, la radio du mieux-être. Et nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin, 14 février. Et oui, la fête des amoureux. La semaine dernière, avec mon ex-épouse, on a parlé des fruits de l'arbre, les fruits d'un couple, ce sont les enfants, évidemment. On a terminé l'entrevue en parlant un petit peu de la sexualité. Je dis bien un petit peu parce que Nicole, déjà, est réservée. Hein, c'est quelque chose d'intime, de personnel, de privé. J'ai ouvert un peu la porte sur ce qu'on appelle le tantrisme. C'est une science qui vient d'Orient, plus précisément du Cachemire. Et à l'époque des rishis, vous savez, là, avant les maharajas, là, et c'était une science qu'on considérait comme la science royale, la science de l'être. Et il y a deux pans au tantrisme. On appelle ça le tantrisme de la main droite et le tantrisme de la main gauche. Aucune allusion à ce qu'on appellerait la masturbation. Ici, aujourd'hui, évidemment, on ne devra pas avoir des préjugés et des tabous avec tout ce qu'on va aborder comme sujet. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une personne qui m'a fortement impressionné, parce que d'abord, elle est verso, elle aussi, comme mon ex, Nicole. Et elles ont toutes les deux les mêmes, je pense, ascendants, ce qui est assez spécial. Et toi, de ton côté, Joanne, puisqu'il faut te nommer par ton nom, comme on dit, tu as vécu des expériences initiatiques. Tu es allé même en Arizona.
Oui.
Alors, tu as vécu des choses qui ne sont pas données à tout le monde de vivre et qui nous permettront peut-être de bien connaître l'être humain, d'autant plus que moi, je suis un gars, un homme. Et quand on est un gars, on ne peut pas prétendre bien connaître la femme. Comme je pourrais dire, une femme ne peut pas vraiment bien connaître un homme, à moins d'être un homme ou d'être une femme, pour parler surtout de sexualité. C'est un partage, la sexualité. On est deux, on est fait pour se rencontrer en face à face. En hébreu, on appelle ça « yadoa ». L'amour et la connaissance, c'est un seul mot, « yadoa ». « Yad », qui est la racine du mot « main ». Une main, en hébreu, ça se dit « yad ». « Yadoa », vous savez, on a deux mains, main droite, main gauche, comme on dit en tantrisme, et quand vous les placez en face à face, vous pouvez joindre les mains jointes, vous remarquez que c'est fait pour aller face à face, comme un homme et une femme. Exactement. Et on dira que, là, autrefois, on priait, les filles priaient avec les mains jointes, les doigts repliés, ça faisait comme un rond, un dôme. Ça ressemble à l'ovule qui est rond. Alors que les garçons, on priait les mains avec les doigts allongés, pointus, en pointant vers le ciel, et qui fait un peu comme le clocher ou le minaret. Alors on retrouve là l'aspect du pénis en érection, au lieu de l'ovule. Et on compare très souvent, dans les rituels sacrés, la gerbe de blé et la vigne. Dans un cas, c'est le raisin qui donne le vin, et le raisin est rond, comme un ovule, d'aspect féminin. Et le blé, la gerbe de blé, qui pointe vers le ciel et qui représentera finalement le pain. Les deux éléments que Jésus avait dit, « Ceci est mon corps, le pain, et ceci est mon sang, le vin. » On voit que derrière l'ésotérisme dont je parle depuis 1976 sur les câbles au Québec, puis depuis 1997 sur Internet, avec un site qui s'appelle évidemment « Ésotérisme expérimental », on aborde la tradition, qu'elle soit chrétienne, musulmane, juive, c'est de l'enseignement fondamental par différents sages, philosophes, personnes qui ont voulu répondre à la grande question d'où on vient, pourquoi on est ici et où est-ce qu'on s'en va après. Et entre la naissance et la mort, il y a de la vie. Et qu'est-ce qui caractérise la vie? Il y a des gens qui répondent, c'est le mouvement. Quand quelque chose est en mouvement, c'est donc vivant. Une pierre, ça ne bouge pas, c'est pas vivant. Une statue, c'est sculpté dans la pierre, dans le bois, ça ne bouge pas, c'est pas vivant. Oui, mais je pourrais rétorquer qu'un drapeau au vent, il bouge, et c'est pas vivant. Alors, qu'est-ce qui caractérise la vie? C'est pas nécessairement le mouvement. C'est le fait de pouvoir se reproduire. La reproduction. La reproduction passe par l'acte sexuel. On a vu la semaine dernière, quand on a abordé un petit peu le tantrisme à la fin de l'émission, que lorsqu'on dit sexualité, on parle de 6. Comme l'année bissextile, ça n'a rien à voir avec faire 2 fois plus de sexe, mais ça veut dire que c'est une année où il y a 2 6, 366 jours. Les sexagénaires, c'est dans la 60aine, 6 encore une fois. Et donc, on réalise que le sexe, c'est pas nécessairement de l'amour. Parce que l'amour, c'est lorsqu'on introduit le 7e chakra, le chakra qui est au centre, qu'on appelle le cœur, le chakra cardiaque. Alors que les 6, pour faire le sexe, c'est les 3 chakras inférieurs et les 3 chakras supérieurs. On en a parlé la semaine dernière. Allez écouter l'émission avec Nicole, l'émission numéro 15. Vous allez retrouver dans la dernière portion de notre rencontre des explications très précises en rapport avec le développement de ces 6 chakras. Mais aujourd'hui, on parle de la Saint-Valentin, on parle de la fête des amoureux, mais on parle de la voix du cœur. Et vous avez remarqué qu'un cœur, c'est 2 parties. Quand on prend les 2 mains, on peut faire un cœur en pliant les doigts qui se relient et les pouces qui font la pointe en bas du cœur. La forme du cœur, vous savez. C'est une belle façon d'exprimer l'amour à quelqu'un à distance en lui faisant le signe de notre cœur. On lui montre notre cœur de cette façon-là. Et donc, ça prend les 2 mains. Une main qui fait une moitié de ce symbole du cœur et l'autre main qui vient s'accoter sur la première pour faire l'autre moitié du symbole du cœur. C'est ça. Au-delà de la sexualité, l'aspect de l'union d'un couple par amour, par la voix du cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, après la pause, on va rencontrer notre invité d'aujourd'hui, Joanne. J'en dis pas plus. On va apprendre à la connaître. Et à travers ses propos de femme, on va découvrir peut-être, d'une manière plus simple, la façon de comprendre la voie qui nous amène au cœur. Nous sommes de retour à Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Et aujourd'hui, j'ai mon invité, Joanne. On a parlé de sexualité, là, j'en parle depuis une dizaine de minutes, quinzaine de minutes même. À se demander, est-ce que finalement, on se complique pas la vie à essayer d'étudier la sexualité? Comment est-ce que toi, Joanne, qui est une femme, qui va nous donner l'approche plus féminine de la sexualité que masculine, donc plus peut-être intuitive que très rationnelle, intellectuelle, comment est-ce que tu pourrais définir la sexualité?
Écoute, la sexualité, ça commence déjà quand on est toute petite. Quand vraiment, là, on commence à s'éveiller, à regarder notre mère, nos parents. On voit quand même certaines démonstrations de nos parents. Mm-hmm. Et puis, on voit l'amour quand il y en a dans la famille. Moi, j'ai été choyée, il y avait beaucoup d'amour dans ma famille. Alors, je voyais des gestes qui se posaient, des mots. Et c'est très inspirant pour les enfants. Alors, ça commence comme ça. Et puis, moi, évidemment, je suis une femme des années 60-70. Alors, j'ai trempé dans le peace and love et et les hippies. Alors, évidemment...
Faites l'amour et non la guerre. Là.
Faites l'amour et non la guerre.
Est-ce que tu étais d'accord avec la phrase de Roger Drolet qui disait, parce qu'on est dans la fête de l'amour, là, la Saint-Valentin, oui. Est-ce que c'est vrai que pour avoir du sexe, un homme doit d'abord passer par le cœur de la femme, se faire aimer, le bouquet de fleurs, la boîte de chocolat, toutes sortes d'attentions, et là, il va finir par gagner du sexe.
Pas nécessairement.
Alors que la femme, elle, si elle va avoir un homme... Elle va s'offrir au sexe pour aller chercher son amour, son cœur.
Pour certaines, peut-être que c'est ça, mais pas pour moi. Et puis il y a d'autres femmes qui sont comme ça.
Alors,
aussi.
Alors comment l'amour et le sexe peuvent-ils cohabiter?
Premièrement, il faut avoir des expériences. La première chose. Avoir des expériences sexuelles, ça commence comme ça, les premières
bon,
choses.
Bon, là, est-ce qu'on va s'entendre sur le terme génital pour préciser que c'est des relations sexuelles, alors qu'on peut parler de sexe qui n'est pas nécessairement génital, comme on le disait la semaine dernière dans le tantrisme. On dit souvent, des fois, que c'est un amour platonique, le tantrisme, parce qu'il n'y a pas nécessairement de relation complète, le génital, mais que ça reste à un niveau... méditatif, de posture. On connaît le Kama Sutra avec toutes les positions, yoga.
Là, je t'arrête parce qu'au début, c'est des expériences qu'on fait. Au début.
Oui.
Que ce soit un jeune garçon ou une jeune fille, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on fait des expériences.
Pour découvrir.
Sexuelles, pour découvrir. Et puis, plus tard, bon, là, à ce moment-là, on peut faire des choix si on veut avoir des expériences uniquement génitales, sexuelles.
Oui.
Et puis, bon...
Mais est-ce que je me trompe que les garçons s'en vont droit vers la génitalité alors que les filles s'en vont droit vers le cœur? C'est-à-dire, leur découverte de la sexualité, c'est pour aimer.
Oui.
Puis pas nécessairement de vivre une expérience physique génitale alors que les garçons, c'est ça qu'ils cherchent. Puis, à un moment donné, qui ont découvert le plaisir de ça, ils vont tourner vers ça. Ils vont toujours aller chercher chez la fille l'aspect génital. Alors que la fille, elle, elle veut chercher plutôt le chevalier romantique.
C'est bien dit, c'est ça.
Bon.
Par contre, j'ajoute la bémol, mais chez les garçons, il y a des garçons, si leur côté féminin est élevé, plus élevé, hein, ça dépend de leur personnalité, à eux. Il y a des garçons qui sont aussi sensibles que des filles. Hein? Donc, ça se mêle. Hein?
Ben, on parle d'androgyna même. On parle d'androgyna aujourd'hui, des gars-filles, des filles-gars.
Aujourd'hui, c'est de plus en plus visible.
Oui.
C'est correct aussi. Hein? On assume notre personnalité, nos goûts. Et puis, ça se voit dans le physique. Avant, les hommes ou les jeunes garçons, ils se ressemblaient tous. Aujourd'hui, on peut avoir une variété de personnalités. Et puis, c'est tant mieux.
Oui. Alors, on en revient au thème de l'amour de la Saint-Valentin. À travers toutes ces péripéties aventurières, on appelle ça même des aventures, hein? Quand on dit on a eu des aventures avec un tel ou une telle, bon... À un moment donné, on va se fixer par amour.
Oui.
C'est au centre, hein, le cœur.
Oui.
Et donc, ça va être le centre pour l'équilibre. C'est au centre qu'on trouve l'équilibre.
Oui.
Comment on peut éduquer, amener la jeunesse vers ça, l'amour, au lieu de se perdre dans des expériences extatiques ou hystériques ou... là, j'utilise des mots extrêmes là, pour montrer qu'on peut se perdre carrément là, dans le génital, dans le sexe, et passer à côté de l'essentiel qui est le centre, l'équilibre, le cœur.
Je te dirais que aujourd'hui tout va vite. Hein?
Oui.
Et c'est dommage parce qu'on n'a pas le temps beaucoup d'expérimenter. Les gens veulent atteindre un but rapidement, mais il y a toujours un temps à y mettre pour arriver à avoir une belle relation amoureuse. Et puis, ça vient des deux côtés. Il faut que l'homme et la femme soient...
Alors là, je trouve, Joanne, on est un peu beaucoup dans la théorie,
oui.
Mais est-ce que je peux te poser des questions un peu plus intimes? Là?
Oui, bien oui.
Toi, tu as découvert de la sexualité, et là, on va le préciser, génital. Est-ce que toi, ça s'est fait très jeune?
Il y a eu des expériences sexuelles non complète, très jeune. Et puis, les expériences complètes se sont passées là, autour de 17-18 ans. J'étais pas, il n'y avait pas nécessairement d'urgence pour moi. Puis cette époque-là, c'était correct aussi. Mm-hmm. Mais il y avait toutes sortes de petits jeux là, sexuels, ou plaisants. Puis qui, en même temps, ça te permet de te connaître.
Avec hein? différents partenaires.
Avec différents partenaires, c'est ça.
Oui.
Alors,
donc, dans le Peace and Love, évidemment, c'était fait l'amour et pas la guerre. Mais là, on y allait allègrement dans ces années-là, les années 60, là, 70.
On y allait allègrement ouais. là-dedans. Et ça m'a permis, en même temps, de connaître la personnalité de différents, d'hommes différents. Pour moi, je crois très bien que c'est pour toutes les femmes... C'est un cadeau de pouvoir rencontrer plusieurs personnes.
Oui. Absolument. Et un jour, tu as fait un choix?
Un jour, j'ai fait un choix. J'ai fait un premier choix.
Oui, un premier... Oui, bien, c'est ça. Et tu as eu, toi choix. Aussi, la phase du divorce. Hein?
Oui.
La séparation. Oui. Donc, on dirait qu'on n'est pas rassasié. On grandit, on voudrait... évoluer, apprendre des techniques ou apprendre des plaisirs complémentaires et supplémentaires peut-être.
Oui, mais c'est la relation d'un couple, c'est pas uniquement sexuel. Il y a tout ce qui vient autour. Hein? Et puis c'est sûr, le sexe a sa place. Mm-hmm. Mais par contre, il y a autre chose dans la vie que ça, qui est quand même très important. Et puis pour que ça dure. Bien, il faut être complémentaire à plusieurs niveaux, pas uniquement dans la sexualité.
Ou dans la génitalité.
Ou dans la génitalité. Mais quand tu es en couple, normalement, il y a de l'amour. Hein? S'il n'y a pas d'amour, là, il y a un problème.
OK. Hein? Donc, au cœur même, c'est le cas ouais. de le dire, le cœur, au cœur même d'un couple, ouais. c'est d'abord l'amour.
Bien, j'imagine que peut-être qu'il y en a qui le font, là, mais quand tu décides d'être en couple avec quelqu'un, c'est qu'il y a beaucoup d'affinités. Et puis, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a de la sexualité, il y a de la compréhension, il y a de la sagesse, il y a des buts communs, il y a une spiritualité, et tout est là. Hein? Si l'ensemble n'est pas là, c'est certain que ça va briser en cours de route. Hein?
Bon, alors on fait la pause de la demi-heure et au retour, on va donner des clés pratiques enseignées, entre autres, en tantrisme, pour que le couple dont tu parles, fonctionne pour le mieux, pour le plaisir. Nous sommes de retour à Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn et mon invité pour la Saint-Valentin. C'est l'occasion de parler de l'amour, évidemment, avec une femme. Bonjour, Joanne.
Rebonjour, Richard.
Ben oui. Alors là, on se dit, on parle de couple, un homme, une femme. En mécanique, on parle de couple quand on parle de deux. Ça prend deux éléments. Le meilleur exemple de ça, c'est le pédalier d'une bicyclette. On remarque que quand il y a une pédale en haut, l'autre est en bas. Quand on pousse avec une jambe, on relâche avec l'autre jambe pour que la pédale monte. De la même manière qu'un moteur à piston fonctionne avec un piston qui, pomf, il part par en bas, l'autre remonte.
Complémentaire,
exactement. Et... on pourrait comparer, et on l'utilise dans l'explication de la sexualité en couple, un jeu comme le jeu de ping-pong. Hein, c'est oriental, ça aussi, comme oui. le tantrisme. Et il y a quelqu'un qui a la balle, frappe la balle avec la palette, la balle rebondit sur la table, passe par-dessus le filet, arrive de l'autre côté. C'est au tour de l'autre de renvoyer la balle. Et c'est exactement le principe de la vie de couple. À chacun son tour de frapper la balle, de l'envoyer à l'autre.
Oui.
Et c'est à l'autre d'être capable de nous la retourner. Et on peut jouer à essayer d'être plus fin finaux que l'autre. Mais si on se fait battre, comme on dit, on se fait planter, ben on se décourage, on n'aime plus jouer et on s'en va.
Il ne faut pas que ça arrive trop souvent.
Exactement. Alors le secret, quand on veut enseigner la technique du couple qui va perdurer, qui va durer, qui va être heureux, qui va s'enrichir, c'est qu'il faut d'abord trouver un partenaire qui est prêt à jouer au même jeu ou un partenaire qui va jouer au ping-pong, en l'occurrence. Frapper la balle, elle s'en va chez le voisin, elle revient et évidemment, il faut qu'il y ait comme une complémentarité assez égale. Si tu joues avec des coups frappés très fort, il faut que l'autre soit capable de te l'envoyer très fort, comme dans des tournois de ping-pong. On les voit jouer, là, puis ils reculent la table, ils sont de plus en plus loin de la table, puis ça frappe fort sur la balle, puis elle rebondit, puis l'autre, il renvoie ça fort.
Mais dans une coupe... Il ne faut pas jouer trop souvent comme ça.
Non, bien, idéalement, c'est de commencer en s'apprivoisant, d'abord, de façon très simple.
Ouais.
Mais le secret que j'utilise quand on enseigne cette technique-là, c'est de dire, comptez combien de coups vous avez frappé. Alors, tu n'essaies pas de jouer pour que l'autre ne te la renvoie pas. Tu essaies de jouer pour que l'autre soit capable de te la renvoyer. Et c'est là que ça devient orgasmique. Ben oui, allez expérimenter la chose en quelque part et vous allez découvrir qu'il y a une espèce d'état de jouissance quand tu es rendu à 145. Boum, boum, toum, 146. Boum, toum, 147. Là, tu te dis, écoute, il ne faut pas qu'on manque notre coup, là, 148, 150, 163, 170, 185, 220, 228, 230, toup, elle vient, on l'a échappé, on a manqué, distrait, étourdi, fatigué, hey, 238 à battre la prochaine fois, on va essayer de faire mieux que ça.
Alors, au moins, on s'est amusé pendant le jeu, hein?
Ben, et voilà.
Alors, s'est amusé, même si on n'est pas arrivé où on voulait arriver, mais on apprend aussi en même temps.
Ben, on est peut-être arrivé où on voulait arriver. C'est justement ce qui fait que ça,
toujours un peu
ça
plus loin.
Finit là, parce c'est que la relation, tout le monde a compris l'allusion avec la relation sexuelle,
ouais.
Qui fait que ça peut durer 238 minutes.
Et ça peut être rapide aussi.
Ouais.
Ça dépend.
Mais quand il y a un échange qui est d'égal à égal, autrement oui. dit. Il faut que tu trouves le partenaire qui est prêt à jouer comme toi au même jeu, qui va jouer à ta manière de jouer pour que ça dure et qu'il n'y en ait pas un qui essaie de se débarrasser de l'autre en jouant de manière que l'autre ne pourra pas la retourner la balle. Et de cette façon-là, on arrive à quelque chose de merveilleux. Et c'est peut-être ce qui manque souvent dans notre société de compétition. On a l'impression qu'on est plus beau, qu'on est plus fin, qu'on est plus fort, qu'on est plus riche, qu'on est plus intelligent que l'autre. Puis à un moment donné, on vit sur les différences au lieu de vivre sur les ressemblances. Et c'est là que ça vient à l'horizon, la séparation. Parce qu'on va chercher un nouveau partenaire qui va nous apporter ce que la première ne portait pas.
Et d'avoir... C'est inquiétant aussi d'avoir trop de partenaires quand on commence à être en couple, hein?
Ah ben oui, hein? Là,
parce qu'une personne qui n'est pas capable de rester en couple longtemps, ben il y a un problème. Quand ça se répète tout le temps.
Oui, c'est peut-être une personne qui a une mauvaise manière de juger l'autre et qui ne voit pas les qualités et les faiblesses de l'autre. Ou alors c'est quelqu'un qui n'est jamais... capable de s'adapter à personne. Donc, il vit
arrive,
seul.
Ça aussi. Ben oui. Des fois, on est mieux d'être seul que d'être en couple.
Ben oui,
on
évidemment.
On peut être plus heureux. Mais je te dirais...
D'ailleurs, il y a des gens qui vivent autrefois les religieuses. Ils se mariaient, les religieuses. Elles se mariaient. Ils avaient même une bague de mariage.
Avec Dieu.
Avec Jésus.
Ben oui. Je me souviens de ça.
Ben oui. Alors, c'est une façon de créer un couple avec... un égrégore, avec une entité spirituelle, et on va très loin, quand on parle en ésotérisme, de se marier avec son double, c'est-à-dire l'énergie-essence de l'essence qui nous a créés dans la matière et qui est toujours omniprésente dans notre vie. C'est la petite voix de la conscience, c'est la voix de notre double qui nous dit « là, tu te trompes, là, vas-y comme ça, non, va pas là, fais ci, fais... » Bon, et de cette façon-là, on peut considérer que tout être humain a le moyen de vivre une vie de couple. Et quand on disait au tout début de la rencontre aujourd'hui que la vie de couple doit entraîner la reproduction, Oui, reproduire un enfant, ça prend deux êtres biologiques, puisqu'un enfant, c'est un fruit, c'est un produit biologique. Mais, il ne faut pas les oublier, les religieuses qui se sont données comme professeurs dans des écoles pendant de nombreuses années, elles ont eu plein d'enfants à qui elles ont enseigné des choses. C'était leur fruit.
Oui, il y avait des religieuses. Moi, justement, j'ai été chez les religieuses. Hein? Mm-hmm. Et puis, il y avait des religieuses qui étaient fantastiques. Mais il y avait des religieuses qui étaient très frustrées aussi.
Hein? Ben, ça dépend. Comme des couples, il y en a des fois qui subissent leur vie de couple. Surtout à l'époque où on disait le mariage est indissoluble, comme on disait l'atome est insécable. Tu sais, on ne peut pas séparer l'atome, on ne peut pas séparer un mariage. Ben non. On a compris que souvent, c'est mieux, même des fois mieux, même pour l'équilibre des enfants, psychologiquement.
Absolument. Mais tu sais, être en couple, c'est beau. Comme j'avais déjà dit à mon ex, on est en couple pas pour la vie, on est en couple pour être en vie.
Ben voilà.
Hein?
Ouais.
Alors là, on a des choix à faire à ce moment-là. S'il nous semble que la vie serait mieux de façon différente ou seule, alors c'est le temps de partir à ce moment-là. On parle de la Saint-Valentin, mais on parle de rupture aussi, parce que des fois c'est mieux comme ça, pour former un nouveau couple.
Oui,
avec exactement. Quelqu'un d'autre qui nous ressemble. Hein? Parce que pourquoi il y a des séparations? C'est parce qu'à un moment donné, le but commun est plat. Ouais. Alors, on est mieux de continuer. Puis ça fait grandir de toute façon. Hein?
Alors, c'est sûr que, comme dans le sport, il faut que les partenaires soient du même niveau, la même force, la même équivalence.
Oui.
Et on sait, comme dans le sport, il y en a qui vont faire plus d'entraînement, ils vont développer des capacités que l'autre ne développera pas. Et à un moment donné, ça fait qu'il y a tellement de différence entre les deux dans le couple qu'il y en a un qui est brimé parce qu'il est obligé de ralentir et l'autre, il va trop vite. L'autre est brimé, alors c'est ça, il faut peut-être se rendre à l'évidence qu'il y a peut-être un changement de partenaire nécessaire pour le bien.
Des deux.
Et ne pas condamner un et puis attaquer celui qui... non, il y a une prise de conscience qu'il faut peut-être arriver à faire ensemble, en couple, justement.
Mais tu sais, tu parlais d'un sportif là, de haut calibre qui vit avec une personne qui fait aucun sport, qui ne s'intéresse pas du tout à la vie de son conjoint, mais évidemment, à court terme, ça va se terminer.
Oui, à moins qu'il y ait une complémentarité à un autre niveau.
Oui, mais...
Est-ce qu'on pourrait dire que d'un couple se reconnaît au fait qu'ils finissent par le temps qui passe se ressembler?
Répète-moi ta question.
Un couple qui dure longtemps, les deux partenaires finissent par se ressembler, tant et si bien que des fois on a l'impression que c'est frère et sœur presque. Parce qu'avec les années qui passent, la physionomie des deux se ressemble. Un peu comme quelqu'un qui adopte un chien ou un chat. On dit souvent, on a un chien... Il n'y a pas de bestialité dans ce que je veux dire. Là. Ça n'a rien à voir avec de la sexualité animale. Là. C'est juste que dire un chien se comporte comme son maître.
C'est normal.
Puis c'est normal.
C'est l'énergie qu'il partage.
C'est ça. Alors, donc, un couple d'êtres humains, un homme et une femme, ils vont finir par le fait d'être tout le temps en cohabitation, proches, à se ressembler, avoir même des manières de parler qui se ressemblent.
Oui, mais ce n'est pas un gage nécessairement de succès pour le couple.
Ben, d'accord. Ce
n'est pas un gage de succès. On peut voir des couples qui s'en vont, ils sont plates, là, tu sais.
Ils sont opprimés.
Ils sont fâchés un après l'autre, mais ils restent ensemble pour des raisons qu'ils se donnent, mais ce n'est sûrement pas des bonnes raisons. Et puis ça finit, puis c'est des gens totalement frustrés. Alors, dépendant de l'époque, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Hein? Disons que les gens ne restent pas 40 ans ensemble parce que, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est possible, puis c'est possible de le faire en harmonie aussi, de changer de partenaire pour être de mieux en mieux. On va dire de mieux en mieux, mais il arrive un moment donné où on trouve le bon partenaire, on finit par le trouver. Ça ne veut pas dire qu'on le trouve du premier coup.
Ah ben non.
C'est ça?
Est-ce que La période du Peace and Love, ça n'a pas été une étourderie qui a fait perdre le sens de la véritable voie naturelle entre un homme et une femme. Ça a été une évaporation totale de laisser aller dans toutes les directions, qui fait qu'il n'y avait pas de centre, il n'y avait pas de direction. Et au bout de la ligne, je me souviens d'une époque où il y avait des partages de vie de couple, ouais. De partage, ouais. De partenaires. Des communes où les enfants étaient des, ouais, enfants de tout le monde. Ouais. Et puis, alors finalement, ça n'a pas duré, ça.
Non plus.
Ça n'a jamais duré, ça, parce qu'il y a une loi dans la nature qui veut qu'un couple, en général un homme et une femme, s'occupe de leur progéniture propre, mm-hmm, pas celle des voisins. Et que de cette façon-là, il y a une pérennité, ça va durer. Alors que quand on est en état sauvage, à se laisser aller dans toutes les directions, ça ne fait pas des enfants forts, parce qu'il n'y a pas de centricité.
Oui, mais c'est comme le reste. Regarde aujourd'hui ce qui se passe sur la Terre. Ça a pris toutes les directions. Puis là, à un moment donné, en espérant que ça revienne à une balance plus normale, pour apprendre, des fois, il faut aller dans des excès. En tout cas.
D'ailleurs, les enfants d'aujourd'hui semblent être beaucoup plus sages que leurs parents.
Oui.
Et ils ont appris, oui, qu'ils en ont souffert souvent de l'absence des parents, parce que pour gagner de l'argent ou pour gagner un statut social, ils allaient étudier, puis ils s'en allaient de plus en plus dans toutes les directions. Fait qu'au bout de la ligne, nos jeunes d'aujourd'hui ne font pas des reproches à leurs parents, mais ils se disent, on ne fera pas les mêmes erreurs deux fois.
Et c'est heureux, ça, de voir aller comme ça. Si on regarde les gens qui...
Alors, dis-moi une chose très simple.
Oui.
Je voulais te recevoir pour parler de amour.
Oui.
Lâchons tous les partenaires que tu as eus. Lâchons toutes les directions. Ça, là, non? Mais tu en as un présentement, oui, que tu peux dire que tu aimes.
Ah oui.
Alors, oui, dis-moi donc. Ta recette, c'est quoi que tu aimes dans ton partenaire présentement? C'est quoi l'amour que tu as? Puisque tu me dis, oui, celui-là, je l'aime, je suis, oui, bien, puis je voudrais le garder jusqu'à la fin de ma vie, ça va être lui. C'est, oui, quoi? Parle-moi d'amour, là. Parle-moi de l'amour. Là.
L'amour, premièrement, ben je peux te dire une chose. Quand j'ai rencontré cet homme-là, au toucher, il m'a juste pris la main. Juste ça.
Mm-hmm.
Et j'étais en pays de connaissance. J'étais dans un grand bien-être. Juste par le toucher.
T'as-tu fondu dans ses bras? Puis ça
non,
été...
non, j'ai été... Ah. Mais tu sais, on peut rester... ça m'était jamais arrivé.
Oui.
À ce point-là. C'est juste une main, mais ça parle. Hein? L'énergie parle beaucoup. Et puis, je me suis dit, hey, qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Et puis, on a appris à se connaître, parce qu'on se connaissait presque pas. Hein? Il y a toujours un début.
Ah oui.
Et puis, j'ai connu sa grande sagesse. Et je te dirais que, bon, dans les 7 années, il y a eu quand même des périodes difficiles. Il y a eu des événements qui sont arrivés de l'extérieur qui a fait que ça a été plus difficile.
Ouais.
Mais ça ne touchait pas, ça nous touchait, nous, par ricochet, on va dire.
Ouais.
Et je te dirais que d'être ensemble, si on n'avait pas eu l'amour un pour l'autre, on n'aurait jamais pu passer au travers de cette expérience-là. Il y a aussi, je te dirais, la confiance mutuelle, l'entraide, la confiance, le bien-être, la sexualité, la spiritualité, les buts communs. On a pu rassembler tout ça, et ce qui fait que, même si on ne se parle pas, on est bien. Si on se parle, on est bien. Il n'y a pas de pression.
Votre présence.
La présence, on est bien.
Oui.
Et puis, le plus longtemps on est ensemble, le mieux c'est. C'est certain qu'on ne veut pas toujours être ensemble. Là. Puis en même temps, on a besoin aussi d'avoir des temps là, séparés pour grandir séparément, parce qu'il faut toujours grandir séparément pour être bien ensemble. Ça, c'est primordial. Il faut, pour être en amour avec quelqu'un, être bien avec soi, puis avoir chassé toutes nos petites choses autour, nos bibittes autour, là, pour pouvoir... et puis, bon, c'est sûr, quand on arrive dans une troisième relation, ou deux, ou d'autres, on arrive avec un passé. Il faut faire la paix avec le passé et se servir du passé pour grandir. Mm-hmm. Hein? Il ne faut jamais mettre le passé à côté et puis s'en servir monnayable. Hein? On ne peut pas faire ça.
Le placer derrière soi.
C'est ça. Le placer derrière soi, se servir des bonnes expériences, même dans le passé, on peut faire ça.
Ben oui.
Hein? Alors, pour une vie harmonieuse, ça prend beaucoup d'éléments. ça prend aussi, il faut toujours se remettre, peut-être pas en question, mais en même temps, être attentif à l'autre, pour voir les besoins de l'autre, et les siens, bien entendu.
Si tu voulais savoir si quelqu'un a connu ou connaît l'amour, quel serait ton critère d'évaluation ou de pour vérifier? Tu me dirais, il faut lui demander telle chose pour savoir si c'est quelqu'un qui est en amour ou qui sait ce que c'est que l'amour.
Oh, c'est toute une question que tu me poses là.
Oui. Uh-huh. Et pour moi, la question qui tue dans le domaine de la Saint-Valentin puis l'amour, comment on peut détecter l'amour? J'ai aimé ta réponse quand tu disais « dans le regard de l'autre ».
Oui.
Oui. Mais ça se détecte quand c'est ton partenaire, ton amoureux. Là, tu peux voir dans le regard de l'autre l'amour qu'il y a pour l'autre. Mais quand c'est quelqu'un qui est amour, qui vit de l'amour, tu sais, la mère de famille qui aime ses enfants, qui aime son mari, qui aime ses chats, qui aime la cuisine où elle fait des tartes, où elle fait des gâteaux, où elle fait de la bonne nourriture pour la famille. C'est toujours la même personne, mais qui aime à différents niveaux. Et c'est toujours de l'amour. Alors, si tu me demandes quel est le critère d'évaluation du degré d'amour, c'est le degré d'empathie. C'est le degré de symbiose avec ses enfants, ses tartes, ses chats, son mari. Et c'est mon critère. Autant tu es capable de parler en connaissant parfaitement ce dont tu parles, c'est de l'amour. Tu ne connais bien que ce que tu aimes bien. Et ce que tu ne connais pas bien, tu ne peux pas l'aimer. Pour l'aimer, il faut que tu le connaisses. Ouais. Et quand tu connais très, très, très à fond quelque chose, tu peux m'en parler sans te fatiguer, tu peux m'en parler en long, en large, dans toutes les directions, et ça, c'est quelque chose qui me prouve que tu aimes. Que ce soit un être humain, un animal, une chose, ou une notion intellectuelle, t'en parles. Prends un pianiste, fais-le parler de piano, de partition, de passage de pièces musicales. Il va t'en parler avec flamme.
Des heures de temps. Oui. C'est une passion.
Il y a de l'amour.
Oui.
Moi, je connais des gens fatigués, épuisés, plus d'énergie. Et tout d'un coup, là, on se met à parler du sujet qui les passionne, qu'ils aiment. Ah, mon Dieu! Il en parle pendant une heure et demie. Il était sur le bord d'aller se coucher. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, au bout d'une heure et demie, j'étais en pleine forme, ben oui.
Il est tout éveillé.
Ben voilà l'amour. Voilà l'amour. Voilà le critère de l'amour. Ça donne de la vie, l'amour. Puis moi, je vais te dire, ici, dans la maison où tu es assise, là, présentement, là, il y a eu des périodes de ma vie que je revis par plaisir de projection dans le passé. Parce que pour moi, c'est pas passé, c'est toujours le présent. Le présent, c'est ce que tu as à l'esprit.
Oui.
Hein? Fait que tu peux avoir à l'esprit un événement futur qui va être ton présent. Parce que l'autre, il ne sait pas, mais c'est ton présent à toi. Le présent de l'autre n'est pas ton présent, puis le présent que toi, ce n'est pas le présent que les autres peuvent avoir.
Mm-hmm.
Alors, quand il parle que ça prend une montre pour être... La notion du présent, c'est la seconde présente actuelle. C'est dans... Moi, je vis dans l'école Jedi, l'instantanéité. Et ça n'a rien à voir avec un temps linéaire, passé, présent, futur. C'est le présent. C'est ce qui est dans ta conscience. Maintenant, c'est ça le présent. C'est pas une question de heure, minute, seconde.
Est-ce que tu trouves que la plupart des gens ont de la difficulté à vivre le moment présent? Au moment où dans le temps d'aujourd'hui, là, on est encore dans le temps, hein? C'est important, le temps.
Mm-hmm.
Mais dans tout ce qui se passe, les gens sont dispersés. Pas capables de se centrer ou...
Bon, je ne peux pas juger pour les autres, mais moi j'ai l'impression que les gens passent à côté, donc ils passent en même temps que le temps qui passe, mais ils sont à côté. C'est comme si on dit, il y a une belle partie de hockey actuellement dans le Centre Bell à Montréal, mais tu es à côté du Centre Bell.
Donc tu vois rien. Tu es là pour ça, mais tu n'es pas là.
C'est ça, ils ne sont pas présents dans le présent. Il faut être présent dans le présent pour être au présent. C'est un jeu de mots amusant.
Jeu de mots, hein?
Oui.
Absolument.
Alors oui, et puis pour la Saint-Valentin, moi, l'amour, c'est ça. C'est d'entrer, d'adhérer, de pénétrer par sa conscience le présent. Et quand tu as une conscience à 360 degrés dans tous les axes, dans tous les sens, en haut, en bas, à l'avant, en avant, en arrière, puis partout.
Tu es dans l'amour.
Au centre, là, tu es dans ce qu'on appelle le présent. Et ton adhésion à ça, c'est par amour. Quand on veut faire parler quelqu'un de quelque chose qu'il n'aime pas, il ne veut pas en parler. Il n'est pas capable d'adhérer.
Mm-hmm.
Et c'est correct. C'est dans les lois de la nature. Alors, si tu me parles d'amour, parle-moi de ce qui te tente de parler, tu vas aller vers ce que tu aimes. Mais c'est ça, l'amour. C'est d'adhérer, de pénétrer. On dit d'un deux corps physiques qui se pénètrent, font l'amour. C'est une question de pénétration, d'adhésion. Et c'est vital.
Et nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité.
Puis, on parle des enfants, puis on peut parler des parents. Tu vois, moi, j'ai perdu mes parents. Ils étaient jeunes hein, quand je les ai perdus. Puis, d'un autre côté, je me regarde, puis je me dis, ils sont là. Ils sont tous en moi.
Exactement.
Ils sont tous en moi.
Oui.
J'ai une partie de tout le monde en moi, je le sais.
Oui. Qui s'aime.
C'est des moments magiques.
Oui, vraiment. Vraiment.
C'est excellent, ça. Oui. Bon, on va se quitter là-dessus.
Oui.
J'ai aimé la conclusion. De...
Merci beaucoup.
Merci, Richard. Merci, Joanne. En terminant, je vous rappelle, madame, mademoiselle, monsieur, qu'il y a un prolongement à cette émission de radio diffusée sur la grande région de Montréal et Ville de Laval. C'est sur Internet que nous avons rendez-vous tous les samedis soirs de 20h à 21h30 pour l'enregistrement de ce qu'on appelle le Vidéorandia de la semaine. Un rendez-vous en direct avec ligne ouverte, ce qui permet à des gens de partout à travers le monde de communiquer avec nous. Passer leurs commentaires, questions, suggestions en rapport avec l'actualité par une vision ésotérique. Le tout est animé avec moi-même et M. Jean-François Poulain. Au mois de mai 2015, il y aura un congrès ufologique de calibre international à l'hôtel Sandman, adjacent à la station de métro Longueuil. Samedi après-midi, le 23 mai, et samedi soir, et le dimanche après-midi, 24 mai, seront réunis là plusieurs ufologues, soit en personne, des États-Unis, d'Europe, du Canada évidemment, ou via Skype. La co-animation se fera avec M. Bob Belanca, de la célèbre émission « Bob vous dit toute la vérité » en France, en collaboration aussi avec la station que vous écoutez, CJLV, de M. Jean Rivet, de Vox Populi. Une belle occasion d'approfondir le phénomène extraterrestre sous des angles nouveaux. Le thème général: les extraterrestres sont-ils vraiment tous extraterrestres, dans le sens qu'ils proviendraient peut-être de d'autres dimensions, aussi bien que de civilisations très anciennes enfouies dans les entrailles de la Terre depuis des milliers d'années et qui observent les développements en surface? On ne vit pas sur le toit de notre maison. On vit à l'abri de toutes sortes d'intempéries à l'intérieur. La même chose pour des êtres très évolués qui se seraient installés à l'intérieur de la Terre. Tout un dossier à explorer cette année dans la fin de semaine du 23 et 24 mai prochain à l'hôtel Sandman à côté de la station de métro Longueuil. Pour plus d'informations, vous pourrez consulter la station CJLV sur Internet, aussi bien que ésotérisme expérimental, plus précisément à l'adresse orandia.ca, orandia.ca. Bien, merci de votre attention. La semaine prochaine, un dossier chaud, celui de la situation mondiale, analysé par plusieurs personnes autour d'une table ronde qui provoquera beaucoup de réactions et surtout, j'espère, de réflexions. Comme aujourd'hui, sans prétention, nous avons abordé le sujet de l'amour. Avec cette Saint-Valentin que je vous souhaite heureuse pour tous les amoureux, qu'ils soient en couple ou avec la vie, par le principe de la pénétration dans quelque domaine que ce soit qui nous passionne. Et en général, ça produit des fruits. À la semaine prochaine. Ici Richard Glenn qui vous souhaite d'être heureux. On a tout pour cela, autour de soi, ici, maintenant. À bientôt.